Les mystères du Palais Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 16. Le réveil. Le mari de Claudine ne tarda point à revenir avec sa femme, qui l'installa auprès de Jeanne. Toutes les deux montèrent alors dans la chambre mortuaire, où elles passèrent en prière le reste de la nuit. Dès le matin du jour suivant, le curé de Lucienne vint rendre les derniers honneurs de la religion à la dépouille inanimée de Madeleine, et Jeanne s'enfuit dans la partie la plus reculée de la maison, afin de ne pas assister à ce déchirant spectacle d'un ensevelissement, afin de ne point entendre le bruit funèbre du marteau qui clouait dans le cercueil le cadavre de sa mère. Bientôt l'humble cortège, composé du prêtre et de quelques paysans, quitta le petit chastel et s'achemina lentement vers le cimetière. La paysanne Claudine, ayant appris par son mari qu'il y avait un malade dans la maison, émue par un sentiment d'humanité qui la poussait à ne point abandonner à lui-même ce malade que tout le monde semblait oublier, chercha la salle basse et la trouva sans peine. Raoul, qui venait enfin de s'éveiller, écoutait, appuyé sur son coude, le bruit des voix qui s'éloignaient en psalmodiant lugubrement le De Profondis. Les effets de l'opium étaient à peu près dissipés. Seulement, un reste de brouillard s'étendait sur l'intelligence de Raoul et ôtait à ses idées leur lucidité habituelle. Il lui semblait avoir dormi d'un lourd sommeil, interrompu par une sorte de cauchemar. Ce qu'il prenait pour ce cauchemar était le moment où les paysans, s'emparant de lui, l'avaient arraché de son lit. Claudine s'approcha de Raoul. « Comment vous trouvez-vous, monsieur ? » lui demanda-t-elle. « Je crois que je vais mieux, » répondit le jeune homme. « Mais dites-moi, que se passe-t-il donc ici ? Tout à l'heure, j'ai entendu un murmure confus auprès de cette pièce. Des pas bruissaient sur les dalles, des voix semblaient psalmodier des prières, et maintenant ces mêmes voix se perdent dans le lointain en chantant l'hymne des morts. « Ah ! » répondit Claudine, « c'est que la mort est entrée ici cette nuit. »« La mort ? » répéta Raoul. « Quelqu'un est mort, dites-vous ? Hélas ! Ce n'est pas elle, n'est-ce pas ? » s'écria M. de la Tremblay avec une anxiété profonde. « Oh, dites-moi, ce n'est pas elle !»« Elle ?» demanda Claudine avec une curiosité involontaire. « Elle ? Qui donc ?»« Cette jeune fille, si belle, qui m'a soignée avec la charité et le dévouement d'un ange, et qui ressemble d'une façon miraculeuse à la figure de cette reine que vous voyez là, en face de vous. » Claudine se tourna vers la tapisserie. Elle fut frappée et étonnée, autant que l'avait été Raoul, de la ressemblance de Jeanne avec la reine Balkis. Au bout d'un instant de silence, elle répondit « Non, ce n'est pas elle, c'est sa mère. » Raoul respira. « Dieu soit loué, » fit-il ensuite. Rien qu'à la pensée d'un pareil malheur, mon sang se glaçait dans mes veines. Le jeune homme sembla réfléchir pendant une minute, puis il reprit. « Et dites-moi, madame, comment la mère de cette jeune fille est-elle morte ? Je la savais malade, mais non point en pareil danger. Aussi n'est-ce point sa maladie qui l'a tuée ? » répondit Claudine. « Grand Dieu ! Un crime aurait-il été commis ? On ne sait pas bien encore s'il y a eu crime ou seulement accident. Expliquez-vous, je vous en supplie. » Claudine raconta à Raoul tout ce qu'elle savait des événements de la nuit précédente, et elle ajouta à son récit des commentaires de sa façon qui ne contribuaient pas peu à obscurcir et à embrouiller les choses. Pendant toute la durée de cette narration, M. de la Tremblay donna des signes d'émotion manifeste. « Où en est en ce moment cette malheureuse jeune fille ? » demanda-t-il quand Claudine eut achevé. « Elle s'est cachée pour ne pas voir partir l'enterrement de sa mère. « Par charité, madame, cherchez-la, et dites-lui que l'étranger auquel elle a accordé une hospitalité si généreuse la supplie à genoux de venir le trouver un instant. « Je ferai cela de grand cœur, » s'écria Claudine, « et si vous savez des paroles pour consoler un peu cette pauvre demoiselle, dites ces paroles, monsieur, et ce sera une bonne action. « Allez, madame, » répéta Raoul, « allez vite. « Je cours, » répondit la paysanne, et elle sortit. « Je porte malheur, » murmura le chevalier resté seul. « On dirait que j'attire la foudre sur les maisons où je repose ma tête. Décidément, c'est à croire qu'il y a un Dieu. » Monsieur de la Tremblay s'absorba pendant un instant assez long dans une méditation sombre et profonde. Puis il reprit mentalement. « Qui pourrait dire si ce que je vais faire est en effet une bonne action ou un crime odieux? Qui pourrait me condamner ou m'absoudre? Qui pourrait juger le sentiment auquel j'obéis et que moi-même je ne définis pas bien? Il me semble que mon cœur bat plus vite. Je ne croyais point que cela fût encore possible. » Raoul appuya la main sur son cœur, dont il sembla compter les pulsations. Un sourire glissa sur ses lèvres, et il continua avec une expression ironique. « Oui, il bat comme celui d'un enfant, il bat comme celui d'une femme. Philippe d'Orléans ne le croirait guère, ni les autres non plus. Comme il rirait de moi, s'il savait cela, et comme il ferait bien. Est-ce que je l'aime, cette jeune fille ?» Raoul parut interroger de nouveau les battements de son cœur, et il se répondit « Le sort en est jeté. Oui, je l'aime. » À peine achevait-il ces paroles incohérentes et qui semblaient manquer de sens et de logique, que la porte s'ouvrit et que Jeanne entra dans la salle basse. La pauvre enfant était bien changée depuis la veille. Sa figure, habituellement si rose et si blanche, était d'une pâleur uniforme que les larmes avaient marbré de sillons d'une teinte violette. Ses grands yeux, entourés d'un cercle d'azur, brillaient de l'éclat que donne la fièvre. Ses longs cheveux blonds, dénoués et flottants, semblaient pleurer autour de son visage. Elle était vêtue d'une robe noire. Son attitude, au moment où elle entra dans la chambre, exprimait le trouble et l'embarras. Elle se souvenait de l'ingrate et terrible accusation qu'elle avait portée contre Raoul dans le courant de la nuit précédente, et elle frémissait de remords en songeant aux conséquences que cette accusation avait failli entraîner. Nous savons d'ailleurs que les sentiments qu'elle éprouvait pour le chevalier étaient loin de l'indifférence, et elle se reprochait la vivacité de ses sentiments à l'heure où il lui semblait qu'elle aurait dû s'absorber tout entière dans une douleur religieuse. Elle s'efforça, mais vainement, de dissimuler ce qu'elle éprouvait. Elle dit d'une voix tremblante et presque indistincte « Vous avez désiré me parler, monsieur? Me voici. » « Mademoiselle, » fit Raoul d'un ton qui n'était guère plus assuré que celui de la jeune fille, « j'ai voulu vous dire d'abord combien est profonde la part que je prends au coup terrible qui vous a frappé. » Jeanne ne répondit que par ses larmes. « Pour sauver la vie qui s'est éteinte cette nuit, » poursuivit Raoul, « j'aurais donné la mienne. » « Oh, s'il savait, » pensa Jeanne, « s'il savait qu'il n'est encore vivant que parce que ma mère est morte. » Chapitre 17 Amour. Le chevalier reprit. « Grâce à vous, mademoiselle, je sens que je suis sauvée. Il me sera permis, grâce à vous, d'aller m'agenouiller sur la tombe de la noble femme que vous pleurez et que je bénis sans l'avoir connue. Je vous dois la vie, mademoiselle, et peut-être la reconnaissance que j'éprouve me donne-t-elle le droit de vous demander quelque chose de plus. » « Je vous écoute, » répondit la jeune fille. « Et si ce que vous allez me demander dépend de moi, croyez que cela sera fait. » « Eh bien, » continua Raoul, « oubliez que je suis pour vous un étranger, presque un inconnu, recueilli par charité dans votre maison. Oubliez que je suis un homme jeune encore. Ne voyez en moi qu'un vieil ami, un frère, quelqu'un enfin pour qui vous êtes sacré, qui ferait de votre bonheur le but de sa vie, et ayez en moi la même confiance que vous accorderiez à cet ami ou à ce frère dont je parle. » Jeanne, ne devinant point où Raoul en voulait venir, répondit « Soyez satisfait, monsieur, car j'éprouve pour vous le sentiment de confiance qu'un frère inspirerait à sa sœur. » « Merci de cette bonne parole, » s'écria Raoul. « Elle me donne le courage de poursuivre. Vous me répondrez donc, ma sœur, avec une entière franchise ?»« Oui. » « Quoi que je puisse vous demander ?»« Oui. » »« Vous me laisserez lire dans votre âme et vous ouvrir la mienne ?»« Et vous ne sourirez pas de dédain, en m'entendant exprimer des espérances et des vœux que vous prendrez peut-être pour les derniers rêves d'une fièvre mal éteinte ?»« Soyez tranquille, » répondit tristement Jeanne. « Mes lèvres ne savent plus sourire. »« Vous m'avez dit, n'est-ce pas ?» poursuivit le chevalier. « Vous m'avez dit que vous étiez pauvre. » Oui. » fit la jeune fille, « je vous ai dit cela. » Vous m'avez dit encore que votre mère s'était vue forcée d'aliéner, pour vivre, la propriété de cette maison, et que rien ici n'était plus à vous. Jeanne indiqua par un signe de tête que Raoul ne se trompait pas. Le jeune homme continua. « Ainsi donc, maintenant, pauvre orpheline que vous êtes, vous pouvez d'une heure à l'autre vous voir chassée d'ici par un impitoyable créancier. »«
Oui, » répondit Jeanne.
« Avez-vous un asile ?»«
Non. »«
Des parents ?»«
Aucun. »«
Des amis ?»«
Pas un seul. » »«
Ainsi, vous êtes abandonnée ?»«
Abandonnée des hommes, et j'en ai bien peur, abandonnée aussi de Dieu. »
Qu'allez-vous faire?
Je l'ignore.
Quel avenir s'offre à vous?
Je n'y veux pas penser.
Après un instant d'hésitation, Raoul reprit. L'autre jour, vous vous en souvenez sans doute, en apprenant de votre bouche que je me trouvais en face d'une misère si grande et si noblement portée, j'avais cru pouvoir vous offrir un appui que vous avez repoussé avec une fierté héroïque mais désolante. Vous m'avez fait sentir que rien ne me donnait le droit de vous faire une offre semblable, et je n'ai pas pensé qu'il me fût permis d'insister.
« Vous avez eu raison, » dit Jeanne.
« Aujourd'hui, je ne renouvelle pas mes offres. »«
Et je vous en remercie, » murmura la jeune fille.
« Je viens seulement vous adresser une question. De votre réponse dépend le repos, le bonheur de ma vie. »«
Parlez, parlez, » s'écria Jeanne vivement.
« Jeanne, » fit Monsieur de la Tremblay d'un ton grave et ému tout à la fois, « Jeanne, votre cœur est-il libre ?» À cette interrogation si peu prévue, la jeune fille rougit malgré sa pâleur. Son front, ses joues et la naissance de son cou se colorèrent d'un pourpre ardent.
« Une semblable demande, » balbutia-t-elle,
« vous étonne et vous offense, » se hâta d'interrompre Raoul. Et cependant, il ne restera bientôt dans votre esprit, je l'espère, ni un étonnement, ni un blâme. Quelques mots doivent me justifier à vos yeux. Et ces mots que je voudrais prononcer à genoux, ces mots doux et sacrés, sont ceux-ci. Jeanne, je vous aime.
Vous m'aimez ? S'écria la jeune fille avec un transport soudain de joie et de surprise.
Oui, s'écria Raoul. Je vous aime, et chose étrange, je vous aimais déjà, avant de vous avoir vu. » Le regard étonné de Jeanne exprimait clairement qu'elle ne comprenait point. Monsieur de la Tremblay développa ainsi sa pensée. « À partir du moment où la tapisserie que voilà offrit à mes yeux troublés encore l'image adorable de cette jeune reine dont vous êtes le vivant portrait, cette douce figure que je prenais pour une vision bienfaisante s'empara de mon cœur. Quand vous m'apparûtes pour la première fois, ce cœur vous était tout acquis et vous y régnez en souveraine. Depuis ce jour, mon amour s'est agrandi de toute l'admiration et de toute la reconnaissance que vous m'avez inspirée. Je vous aime aujourd'hui de toutes les forces de mon âme, de toutes les puissances de ma vie. Votre présence m'est devenue aussi nécessaire que l'air et le soleil. Et si vous m'éloignez de vous maintenant, en vérité, je vous le dis, il eût été moins cruel de me laisser mourir que de me rendre un instant la vie pour me la retirer ensuite. »
Raoul s'interrompit. « Mon Dieu !» balbutia la jeune fille. « Un pareil aveu, dans un pareil moment ?»«
Oh !» reprit vivement Raoul. « Le moment est bien choisi, car il est solennel. N'est-ce pas à l'heure où tout s'écroule autour de vous que je peux, que je dois vous tendre la main et vous dire « Appuyez-vous sur moi qui vous soutiendrai toujours. » Jeanne, vous n'avez plus de famille, et je veux remplacer par mon amour l'affection d'une famille. Jeanne, vous êtes pauvre, et je veux vous faire riche. Ma fortune est grande, mon nom est honorable, ma tendresse est profonde. Jeanne, en la présence de Dieu qui nous voit, en présence de votre mère, dont l'ombre nous écoute et nous bénira, je viens vous demander si vous voulez être ma femme. » Jeanne ne répondait pas. Elle ne pouvait pas répondre. Un bonheur trop grand et trop inattendu, s'emparant soudainement de son cœur, où la douleur débordait déjà, venait de donner à tout son être une commotion terrible qui ne se peut guère comparer qu'à l'étincelle foudroyante échappée de la machine électrique. Raoul feignit de méconnaître les véritables symptômes de l'ouragan qu'il venait de soulever. « Mon Dieu » murmura-t-il avec l'expression d'une amère douleur. « Mon Dieu, ne répondrez-vous point ?» Jeanne porta la main sur sa poitrine
et fit signe qu'elle ne se sentait pas la force de parler.
« Est-ce un refus ?» continua le jeune homme.
« Oh, si c'est un refus, je sens bien que je vais mourir. »
La force était revenue à Jeanne.
« N'avez-vous donc pas compris ? » s'écria-t-elle d'une voix qui s'échappait du cœur. « N'avez-vous donc pas compris que moi aussi je vous aimais ?»
Raoul s'attendait à ce mot. Cependant, les mouvements de joie qu'il laissa éclater furent aussi vifs que si les paroles de Jeanne lui eussent apporté une révélation imprévue. Puis, après ses premiers transports, il passa au doigt annulaire de la jeune fille un anneau d'or qu'il portait au petit doigt de sa main droite et lui dit « À partir de cette heure, devant votre mère et devant Dieu, Jeanne, vous êtes ma fiancée. »
Chapitre 18. Les réponses de Paris.
Au moment où se passait dans la salle basse la scène à laquelle nous venons de faire assister nos lecteurs, un cavalier qui suivait au plus rapide galop la route de Paris à Saint-Germain arrêta devant le petit Chastel sa monture ruisselante de sueur et couverte d'écus. Ce cavalier quitta lestement la selle, attacha la bride de son cheval à un anneau de fer scellé dans la muraille et fit retentir à deux reprises le marteau sonore de la porte d'entrée. Raoul, après avoir dit à Jeanne « Devant votre mère et devant Dieu, vous êtes ma fiancée », venait pour la première fois d'appuyer ses lèvres sur le front de la jeune fille. Elle tressaillit au bruit du marteau et, toute palpitante, elle alla à la porte qu'elle ouvrit. Le nouveau venu était Jacques.
« Vit-il encore ?» demanda le brave garçon avec un sentiment de profonde anxiété.
« Oui, répondit Jeanne, il vit, et grâce à Dieu, il est sauvé. »
Jacques aurait de grand cœur embrassé celle qui lui donnait cette bonne nouvelle, mais il n'osa point, et d'ailleurs, le plus pressé pour lui était de courir auprès de son maître. Il ne fit qu'un bond du vestibule à l'entrée de la salle basse et un autre de cette entrée au lit de Raoul. Le chevalier lui tendit la main. Jacques couvrit cette main de larmes de joie en murmurant « Je savais bien, moi, que je vous retrouverais vivant. »
« Sur mon honneur, » pensa Raoul, « voilà un valet comme il y en a peu. Il héritait de moi et il se réjouit de ne point assister à mon enterrement. C'est à faire croire à la vertu des hommes. » Puis il ajouta tout haut.
« Oui, mon garçon, tu me retrouves. »«
Grâce au ciel !» s'écria le valet.
« Sans doute, » poursuivit Raoul en désignant Jeanne, « mais surtout, grâce à mademoiselle. » Jacques prit la main de la jeune fille et la couvrit de baisers, comme il avait fait de celle de son maître. Le chevalier poursuivit en souriant. « Je suis content de toi, mon brave Jacques, et cependant, dans quelques jours, tu ne seras plus à mon service. » Le valet changea de visage.
« Vous me renvoyez ? » demanda-t-il d'un ton douloureux.
« Non, mais je te donne un autre maître. »
« Un autre maître ? » répéta Jacques.
« Oui, auquel tu devras obéir, comme je lui obéirai moi-même. » Le valet faisait des efforts inouïs pour comprendre, mais ne comprenait pas. « Je parle de mademoiselle Jeanne, » continua Raoul, « qui sera bientôt ma femme, et à laquelle, tu le vois bien, nous obéirons tous les deux. »«
Ah ! » s'écria Jacques en souriant à son tour.
« Comme cela, à la bonne heure. Vive madame de la Tremblay !» Jeanne, avec ce tact si délicat dont les femmes sont pour la plupart très amplement pourvues, comprit que Raoul désirait avoir avec son valet un entretien confidentiel. En conséquence, elle quitta discrètement la chambre, laissant Jacques seul avec le chevalier.
« Eh bien, » demanda vivement ce dernier aussitôt que la porte se fut refermée derrière Jeanne, « as-tu accompli ta mission ?»«
Oui, monsieur le chevalier. »«
Avec succès ?»«
Je l'espère. »
« Ainsi, tu as obtenu le résultat que j'attendais de tes démarches ?»«
Je rapporte les réponses de Monseigneur le Régent et de Monsieur le Marquis de Tiange. »«
Donne vite !»
Le valet tira d'une sorte de ceinture en cuir qu'il portait autour de ses reins deux lettres de moyenne dimension qu'il remit à son maître. Raoul les prit et les décacheta successivement. La première contenait ces mots latins. « Lady Benet ». Ce billet laconique était signé d'un P et d'un O. Les deux mots latins voulaient dire « j'ai lu, c'est bien ». Les initiales signifiaient « Philippe d'Orléans ».
« Que t'a dit le régent ? » demanda Raoul. Il m'a beaucoup questionné sur votre compte, et s'est fort apitoyé à propos de l'accident qui vous est arrivé.
Tu es parvenu à lui sans peine ?
Oui, d'après vos ordres, je me suis adressée au valet de chambre Maxime, et toutes les portes du palais se sont ouvertes devant la bague que vous m'avez remise.
Raoul décacheta la seconde lettre. Celle-ci était plus explicite que la précédente.
« Cher chevalier, disait-elle, j'ai reçu les papiers diaboliques que vous m'avez expédiés, et je suis fort enchantée de leur contenu. Seulement, je me plains du porteur dont vous avez fait choix et qui est un drôle de la plus impénétrable discrétion. Impossible de tirer un seul mot de lui. Je supposais que quelque motif grave vous avait empêché de venir me trouver vous-même. Et curieux de connaître ce motif, j'ai tout mis en usage pour arracher des renseignements à votre mystérieux commissionnaire. Mais il eût été plus facile, sans contredit, de tirer des paroles de la bouche d'une statue. J'en ai été pour mes tentatives de corruption. Cependant, en quelque lieu que vous soyez, je souhaite que la fortune vous sourie. Vous m'obligerez d'une façon toute particulière en me faisant parvenir 100 000 écus dont j'ai le plus pressant besoin. Je compte entièrement sur vous. En revanche, cher chevalier, rangez-moi, je vous prie, au nombre de vos amis les plus dévoués. Marquis de T.
Raoul déchira ces deux lettres en une infinité de petits morceaux qu'il éparpilla autour de son lit.